Bonjour à tous. Content d'être de retour. J'ai à cœur un sujet qu'on a déjà vu récemment, qui a déjà été donné. J'aimerais introduire cette prédication par une lecture dans les Proverbes. Ce court passage va donner une ligne de conduite, ça résume plutôt. Toujours du mal à faire des plans, moi. Faut que je fasse des progrès, je sais. Proverbe 3, verset 5. Je vais vous la lire en français courant. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends, et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède à tous tes troubles, l'apaisement de tes maux. Ici, on est sur un texte qui nous parle d'éviter des troubles, d'apaiser des maux. Et on voit dans ce passage, finalement, qu'un moyen qui nous est donné pour apaiser nos maux, pour trouver un remède. Vous savez, des fois, il y a des passages dans la parole où il est dit « c'est sans remède ». C'est terrible quand on lit ça quand même, sans remède. Il y a des situations qui sont sans remède. Vous le retrouverez dans la parole. Régulièrement, vous le trouvez exactement dans Jérémie, dans les prophètes notamment. Quelque chose de sans remède. C'est dommage d'être dans cette situation. Le Seigneur nous dit ici que celui qui ne s'appuie pas sur sa propre intelligence, Dieu ne nous interdit pas d'être intelligent. L'intelligence, c'est quoi? C'est quand dans une situation que je ne connais pas, devant un problème que je n'ai jamais vu, je vais avoir la capacité à apprendre vite. C'est ça l'intelligence. C'est quand je suis dans une situation d'ignorance, alors je vais avoir la capacité à vite comprendre ce qui se passe, pour vite prendre la bonne décision. Apprendre vite. Si je devais résumer ça, c'est apprendre vite. Quelqu'un qui est très intelligent, il apprend très vite. Quelqu'un qui l'est moins, il apprend aussi, mais moins vite. Le Seigneur nous appelle et il nous rappelle que, quel que soit notre QI, il est insuffisant. Et que dans bien des situations, on n'a aucun recours si on s'appuie dessus et on va se générer toutes sortes de problèmes, de troubles, de maux, d'inquiétudes. Et que la solution, c'est dans quelque chose, une intelligence qui nous dépasse. Elle est là la solution, il est là le remède. Celui qui s'appuie sur ce que Dieu a donné, alors il est intelligent encore plus quelque part, il est sage, je dirais, parce qu'il ne s'appuie pas sur ses propres déductions. Et il s'évite un grand nombre de problèmes, entre autres là. Là aussi. Regardons ensemble un verset dans Job. On va parler de lui ce matin. Mais ce verset qui est terrible pour lui, je dis pour lui exprès parce que, vous savez, quand on est dans la souffrance, on a notre lecture de ce qui se passe. Et souvent, elle n'est pas toujours juste. Et pourtant, quand on regarde de loin, il n'a pas tout à fait tort. Job, chapitre 3, verset 25, il se plaint. Il se plaint comme nous, on pourrait se plaindre aussi. Et il dit ceci, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est terrible de dire ça. Job, c'est vraiment quelqu'un qui était aimé de Dieu. Et moi, j'ai donné comme titre, en reprenant une note d'Alfred Kuhn sur ce livre, que je trouve excellente, le champion de Dieu. Job, le champion de Dieu. Celui, entre guillemets, sur qui Dieu a pu s'appuyer pour relever un défi que le diable lui a donné. Et par Job, par son histoire, par son comportement, l'honneur de Dieu et l'honneur de l'homme va être sauf devant la calomnie du diable. C'est très profond ce que je dis. Parce qu'à travers ce que Job va vivre, ça va fermer la bouche automatiquement à la calomnie du diable. Qui, encore une fois, fait une œuvre qui le trompe. Mais on voit aussi, dans la manière dont c'est présenté, que Job avait quelque chose à apprendre. Qu'il avait quelque chose à comprendre. Que Dieu va permettre cette épreuve, non seulement pour ce but que je viens de donner, rétablir un honneur que le diable essaye de salir, mais aussi, Dieu va le permettre parce que Job a besoin d'aller à un palier supérieur. Job, c'est quelqu'un qui avait une intégrité sans faille. Il était intègre. Quelque chose qui est intègre, c'est quelque chose qui est droit. Il n'y a rien qui dépasse. Rien. C'est nickel. C'est le jardin anglais, vous voyez. Il n'y a rien qui dépasse. Tout est parfait. Tout est nickel. Il est intègre. Je ne dis pas que Job était parfait. Mais dans sa perception, entre la vie qu'il menait et ce qu'il y avait dans son cœur, il y avait une parfaite transparence. Il n'y avait rien de caché. Il n'était pas hypocrite. Et Job ici, on voit que, regardons, on va lire un peu ce premier chapitre. Alors, au verset premier, on va lire les 5 premiers versets. Il y avait dans le pays d'Outz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit. Donc c'est Dieu qui le dit, hein. Il y a rien à dire là. Il était intègre et droit. Comme si intègre n'était pas suffisant, c'est rajouter droit, des fois qu'on ne se comprenne pas bien. Il craignait Dieu et il s'écartait du mal. La fiche d'identité de Job est quand même pas mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, et son personnel était très nombreux. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient dans la maison de chacun d'eux, tour à tour, pour donner un festin, et ils envoyaient une invitation à leurs 3 sœurs pour manger et pour boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient révolus, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifiait, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job agissait toujours. Il y a d'ailleurs des traits de caractère de Job qu'on découvre dans la lecture du livre, dans le sens où Job était un homme, c'était un notable, c'était quelqu'un vers qui on allait quand on avait un problème et qu'on avait besoin d'un avis sage. C'était celui qui protégeait la veuve et l'orphelin, qui distribuait toutes sortes de choses. Il était irréprochable. Il était irréprochable, je pense qu'on peut le dire. Il était irréprochable. Et pourtant, quand on regarde ce court passage, la fiche d'identité de Job qui nous est donnée ici est bizarre, moi, je trouve. Parce que d'entrée de jeu, on me présente cette affaire des festins, là, et du comportement de Job vis-à-vis des festins de ses enfants. Moi, je crois que ce qui nous est donné dans les versets 4 et 5, là, ça révèle une faille. Une faille chez Job. Clairement, qui essayait peut-être de contrôler des choses qu'il ne pouvait pas contrôler. Et finalement, on regarde justement la fin de ce verset 5. Nous est donné l'état d'esprit qu'il avait. Il disait dans son cœur, peut-être que mes fils ont péché et qu'ils ont maudit Dieu dans leur cœur. Alors Job, ben il voulait pas que ses enfants se retrouvent en porte-à-faux avec Dieu. Et il voulait faire une œuvre de sentinelle peut-être, de sacrificateur peut-être pour sa famille. il se retrouvait dans une position de responsabilité. Et pourtant, vous pouvez les noter, je vous les cite. Regardez ce qui est écrit dans Ézéchiel, chapitre 3, verset 20. Je le cite. Hein. « Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Je te redemanderai son sang. » Donc effectivement, à un moment donné, ce devoir de sentinelle, il est nécessaire. Quand on est en responsabilité, on a tous une situation quelque part de responsabilité dans nos familles respectives. Et devant certaines situations, à un moment donné, on peut être amené à avertir. Pour autant, dans Ézéchiel aussi, je cite cet autre passage au chapitre 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Job était certainement bien intentionné quand il agissait ainsi avec ses enfants. Parce qu'il nous est dit qu'il était intègre. Donc devant cette intégrité, il n'y a absolument rien à dire. L'intention qu'il a quand il fait ça pour ses enfants, elle est bonne. Et on voit quand même que derrière ce qu'il fait, il y a certainement, quand il est question de les sanctifier, j'ai regardé sur le texte hébraïque, et il est dans un mode particulier. Quand il est dit qu'il est sanctifié, c'est dit à l'intensif. À l'intensif. Donc intensif, je vous rappelle, je l'ai déjà dit une fois, vous pouvez marcher sur un insecte et vous faites comme ça, mais vous pouvez l'écrabouiller et vous faites ça. Ça, c'est l'intensif. Et quand Job sanctifiait ses enfants, il le faisait à l'intensif. Il n'y avait rien qui devait dépasser. Il fallait qu'il fasse tout bien. Et non seulement il devait les avertir, mais je me demande si peut-être pour ses enfants, il ne devait pas être perçu parfois comme un rabat-joie. Alors c'est mon interprétation personnelle. Hein. Mais ici, Job voulait tellement bien faire qu'il était dans une situation, dans une manière de faire où il voulait que ses enfants soient aussi irréprochables que lui. Et il voulait absolument leur éviter parce qu'il se disait très certainement qu'ils pourraient perdre leur salut, qu'ils avaient une relation avec Dieu à avoir et qu'ils n'auraient peut-être plus. Et Job, il ne laissait rien passer. Il ne laissait rien passer. Parce que vous avez remarqué que c'est inconditionnel, parce que peut-être même que les enfants n'avaient rien fait de mauvais. Mais il se disait, si jamais ils ont fait, alors je le fais quand même. Quelque part, ce qui m'interpelle dans cette présentation de Job, c'est ce comportement finalement où on voit un homme qui a peur pour ses enfants. On voit un homme qui craint la mise à l'écart définitive de Dieu à cause d'un péché. On voit un homme qui craint un malheur qui serait lié à un péché de ses enfants. Et Job, finalement, avait une ligne de conduite qui était rythmée, je dirais, par la crainte. Pourquoi je dis ça ? Parce que la Bible est quand même sobre sur qui était Job. Elle nous dit qu'il était intègre et droit et ne fait pas état de toutes les bonnes œuvres qu'il a faites, de tous les bienfaits qu'il a donnés à la veuve, à l'orphelin, à tout ce qu'il faisait dans la ville, à tous ses états de service dans le pays dans lequel il vivait, sa reconnaissance. Non, tout ça, c'est pas question. La Bible nous montre un point sensible dès le début où on voit que Job vivait quelque part dans une peur vis-à-vis du malheur. Et en fait, on voit que Job, il ne sait pas ce qui se passe dans ses festins. Certainement qu'il se doute, peut-être, il connaît ses enfants, j'en sais rien. D'ailleurs, je tiens à rappeler que ses enfants sont des adultes. Ses enfants sont des adultes. Donc des hommes responsables de ce qu'ils font. Ce n'étaient pas des gamins de 15 ans. C'était des adultes. Et Job, peut-être, prenait trop à cœur, à cause de cette crainte, à cause de cette peur, de vouloir rassembler ses enfants, de vouloir toujours contrôler, de toujours vouloir diriger. Et quelque part, est-ce que Job n'essayait pas de contrôler ce qu'il ne pouvait pas contrôler ? Et ça, ça l'énervait. De savoir qu'il ne pourrait pas contrôler, qu'il ne pourrait pas être là pour éviter à ses enfants de faire n'importe quoi. Alors, ne pouvant pas être là sur le moment, parce qu'il n'était pas invité, visiblement, il se disait, vous venez là les enfants, on se rassemble, on fait quelque chose. Et il s'obligeait, c'était un point d'honneur, il se mettait un point d'honneur d'une manière intense à essayer de régler les problèmes, à essayer de tout concilier, à essayer de faire en sorte que la famille reste unie, que tout soit bien, nickel, pour que rien ne s'effondre. Et pourtant, on l'a lu tout à l'heure, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Le dilemme de Job, c'est que, quelque part, Job, il avait des fondements qui étaient mauvais. Parce que Job pensait que le malheur était forcément lié au péché. On critique les amis de Job qui viennent le lui dire en face. Écoute, si tu traverses ce que tu traverses, c'est de ta faute, t'as péché. Et ses amis, quelque part, on ne peut pas non plus leur en vouloir parce que c'est comme ça qu'ils pensaient tous. Ils voyaient le péché comme étant le malheur qui nous arrive, qui peut tomber sur un homme, une femme, sur une famille. Et il y avait forcément un péché en lien avec ça qui occasionnait le malheur. Et ses amis, quand ils le disent, bon, au début c'est soft, hein, Eliphaz, quand il commence à parler, c'est plutôt soft, il met des gants, c'est bien, il aurait dû garder les gants. Malheureusement, au fur et à mesure que la conversation se faisait, les gants s'enlevaient, et à la fin il est très tranchant. Et peut-être que parfois, on peut être sincère dans nos analyses. Là c'est une parenthèse. Dans certaines situations, on peut être sincère dans certaines analyses, dans nos raisonnements, dans nos pensées. Mais quand le raisonnement est faux, il est faux. Toute sincérité que je puisse avoir. Et malheureusement, on peut être vite amené à être de faux frères, de faux amis. Parce que je vais essayer de convaincre quelqu'un à partir d'un raisonnement que je suis persuadé de ce que je dis, je suis profondément sincère, mais profondément dans l'erreur. Et ma profonde sincérité va faire qu'au lieu d'être quelqu'un qui soit aidant, qui soit utile, qui fasse du bien, je vais être quelqu'un qui fait du mal, parce que je vais poursuivre dans mes faux raisonnements, et malheureusement, ce que je vais dire, ça va faire beaucoup plus de mal que de bien. Les amis de Job, ils étaient profondément sincères dans tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils disaient, et d'ailleurs, Dieu leur dit, Job, tu prieras pour eux, parce que ce qu'ils ont fait... Ils étaient sincères, ils essayaient de comprendre. Mais ils avaient quand même cette situation où Job va vivre l'impensable. Lui qui est intègre, lui qui est droit, le malheur lui tombe dessus. Et voilà que notre Job, il est complètement perdu. Il sait plus quoi faire, il comprend plus. Parce qu'il est dans une situation, il se dit, mais je comprends pas, j'ai pas péché. Qu'est-ce qui m'arrive? Il a perdu tous ses repères. Il est dans un brouillard dont il ne peut plus se sortir. Il ne comprend plus ce qui se passe. Un malheur qui arrive à Job. Et Job ne maîtrise plus rien. On voit que tout le livre de Job, je vous encourage à le lire parce qu'il y a des perles précieuses dans ce livre où on voit vraiment à quel point Dieu nous a laissé cette histoire, et c'est une histoire vraie bien sûr, pour notre instruction. Mais on voit un homme et des hommes qui vont débattre de choses qu'ils ne comprennent pas. Ils vont essayer de trouver des raisons aux choses. Ils vont essayer de comprendre ce qui se passe. Ils vont essayer de se dire, mais il y a un truc qu'on ne comprend pas. Et ils vont chercher. La Bible dit, celui qui cherche trouve. Merci Seigneur. Mais la réponse, elle n'est pas venue d'eux. La réponse, elle est venue du Très-Haut. C'est lui qui s'est révélé. Et c'est lui qui finalement va montrer ce problème à Job. comme pour lui dire, tu vois Job, dans toute ta vie, tu as essayé de comprendre ce que tu ne comprenais pas. Tu as essayé de contrôler ce que tu ne pouvais pas contrôler. Et finalement, tu t'es rendu malheureux. Tu t'es occasionné tellement de troubles à vouloir sans cesse tout contrôler. Regarde dans l'état dans lequel tu es. Est-ce que tu t'y trouves bien ? Regarde, Job, regarde. Et alors qu'on peut regarder juste quelques passages. Job, chapitre 42. Quand on lit ça, la première fois que je lis ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Voilà qu'on a des hommes qui parlent de choses vraiment philosophiques. Alors c'est du haut niveau, sur la sagesse, sur toutes sortes de choses. C'est vraiment de la philosophie de haut étage, on pourrait dire. Ils essayent de comprendre, ils essayent de réfléchir, d'analyser, etc. Et voilà que Dieu prend la parole et il dit ceci. Alors, j'ai tourné trop mes pages. Avant d'aller au chapitre 42, on peut juste regarder. Dieu pose quelques questions à Job. Chapitre 38. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissances ? Donc Dieu, bon, il met les pieds dans le plat peut-être, mais voilà, il dit clairement les choses. Vous n'avez pas la connaissance. Mets une ceinture à tes reins comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Verset 5. Qui en a fixé les mesures ? Verset 6. Dans quoi ces bases sont-elles enfoncées ? On peut aller un peu plus loin. Chapitre 39. Connais-tu le moment où les bouquetins font leurs petits ? Mais quand on lit ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu le moment où elles font leurs petits ? Verset 9. Le buffle désire-t-il être à ton service ? On peut aller plus loin encore. Verset 19. Est-ce toi qui donnes la puissance au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante ? Le fais-tu bondir comme la sauterelle ? Verset 26. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi ? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs ? Tellement de choses sont là. Dieu montre tout un tas de choses. Il montre tout un tas de choses pour lesquelles l'homme ne se soucie de rien du tout. L'homme ici, là, ne contrôle absolument rien. Et pourtant, tout est bien réglé, tout est bien établi. Les animaux, ils mettent bas au terme. Tout va bien, chacun a été bien fait. Et alors que Dieu pose ces questions, il est en train de dire ceci à Job. Écoute, Job. Tu vois tout ce que tu vois là ? Est-ce que tu comprends ? Alors Job, devant l'évidence de toutes ces questions, ne peut que dire non. Mais non, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ça se fait. Pourquoi les hirondelles elles vont d'un endroit à un autre ? Et comment elles savent où arriver, sachant qu'à chaque fois qu'elles vont au même endroit, elles reviennent au même endroit ? Qui a établi tout ça ? Est-ce que Job pouvait comprendre tout ça ? Bien sûr que non. Alors que ces choses, il pouvait les voir. Et Dieu lui dit, voilà, avec tout ce que tu peux voir, déjà tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas tout connaître. Alors pourquoi tu cherches à contrôler ce que tu ne vois pas ? Pourquoi tu cherches à contrôler, à essayer de comprendre tout ce à quoi tu n'as pas accès ? Tu perds ton temps. Et tu te rends malheureux. Et voilà la réponse de Dieu à Job. Et lisons ensemble ces quelques versets. Je vais vous lire dans la version du Sommeur. Job 42, versets 2 à 6. Job est intègre et droit, et il est dans une position d'humilité malgré tout. Et Job dit ceci, « Je sais que tu peux tout, que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. » Et ça, pour Job, rien que ça, c'est énorme. Parce que on voit que ce qui manquait à Job, c'est une relation avec Dieu, on va dire, on voit que dans le premier chapitre, il avait peur que Dieu attende ses enfants au tournant, vous savez, et au moindre écart, quick. C'est ça qu'il avait peur, Job. Et comment il percevait Dieu, quelque part ? Est-ce qu'il percevait Dieu comme un père, un tendre père qui aime ses enfants, ou est-ce qu'il percevait Dieu d'une autre manière ? Parce que Job voulait tout contrôler, il voulait absolument éviter d'être en porte-à-faux avec Dieu. Que ce soit par lui-même, et lui était irréprochable, ou par même ses enfants. Job continue, et il disait ceci au verset 3. « Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance ?» Et Job fait amende honorable. « Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. » Nouvelle citation, quand Dieu parlait à Job, « Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai. Je vais te questionner et tu m'enseigneras. » La réponse de Job, « Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Et maintenant, mes yeux t'ont vu. » Job connaissait pas Dieu. Bien qu'il était intègre, bien qu'il était droit, qu'il était irréprochable, il ne connaissait pas Dieu. C'est pas tout à fait juste ce que je dis. Il ne connaissait pas Dieu comme il aurait dû le connaître. Ça change un peu les choses. Il ne voyait pas en Dieu quelqu'un de foncièrement bon, il voyait quelqu'un qui surveillait. Et finalement, sa peur, sa crainte était là, il avait peur de se faire coincer. Et il essayait de faire en sorte que ses fils ne se fassent pas coincer non plus. Ce n'est pas cette relation que Dieu a voulu avec nous. Et ici, Job continue. Aussi, je me condamne et je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Job, il dit, mes yeux t'ont vu. Et quand il dit ça, même si c'est dans une attitude de repentance, il y a, vous savez, cette tristesse selon Dieu qui vient dans nos cœurs quand on réalise qu'on a manqué le but, qu'on est passé à côté. Et Job était passé à côté de sa relation avec Dieu. Il était passé à côté. Dieu ne voulait pas des rites. Il ne voulait pas la religion. Max nous a évoqué justement la religion. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas qu'on puisse suivre des choses comme ça. Et que, gare à celui qui ne respecte pas. Dieu fait un état des lieux. Il dit, mais de toute manière, vous êtes tous perdus. Vous pouvez essayer tant que vous voulez, d'essayer de régler vos vies, de contrôler, etc. Si vous êtes comme ça, vous serez les plus malheureux du monde. Je paraphrase ce qu'on a lu dans Proverbe, mais c'est ça. Celui qui cherche à contrôler, il sera toujours malheureux. Toujours. On ne peut rien y faire. Parce qu'on ne peut pas contrôler. C'est comme ça. Dieu nous dit, toi, tu ne peux pas contrôler. Et quand Job réalise tout ce qu'il a traversé, il réalise ce à quoi Dieu est en train de l'amener. On peut quand même sentir dans son cœur de la joie qui va arriver. Et on peut aussi voir dans le cœur de Job, il va y avoir une reconnaissance envers Dieu. Regardez ensemble ce qu'il est dit de la fin de l'histoire. Bon, il y a un épilogue, hein, on va juste lire les versets 16 et 17. Job, ça fait un peu conte de fées, mais Job vécut après cela 140 ans, il vit ses fils. Et les fils de ses fils, il avait peur que ses fils se fassent coincer. Il avait peur que ses enfants meurent et aient du malheur, aient un malheur sur eux à cause d'un péché. Et voilà que l'histoire nous dit que Job voit ses fils. Et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Il avait plus peur. Il a vécu ça dans un autre état d'esprit, très certainement. Il avait autre chose que l'esprit de contrôle sur lui. Il avait la grâce de Dieu. Il avait la grâce de Dieu. Et on lit au verset 17 que Job mourut âgé et rassasié de jours. C'est beau quand même. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à cette histoire. Parce que souvent, on est un peu dans la même situation. Lisons ensemble ces deux versets qu'on cite très souvent dans nos prédications, mais on va le relire. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Job n'avait pas compris la grâce. Et à travers tout ce qu'il va vivre, il va être amené à la comprendre. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et j'aimerais dire que il n'est pas seulement question du salut ici, j'aimerais extrapoler, mais il est question de tout ce qu'on pourrait perdre. Quand on laisse la grâce, on perd tout un tas de choses. On perd tout un tas de choses. Le problème avec la grâce, ce qui ne nous plaît pas, c'est que la grâce, elle ne prend pas appui sur nous. Ça nous dérange un peu parce qu'on est tous des orgueilleux, vous savez. On est tous des orgueilleux, même les pasteurs. Des fois, je me demande si ils ne seraient pas plus orgueilleux que les autres, d'ailleurs. On a tous un problème avec ça. On a tous un problème avec ça. Et on aime que les projecteurs soient sur nous. J'ai réussi, j'ai fait, j'ai accompli. C'est de l'orgueil, tout ça. Et Paul, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, par la grâce. Il met quoi en avant? Il ne met pas lui en avant, il met la grâce de Dieu en avant. Ici, ce principe de la grâce, il est terrible, parce qu'en fait, ce principe-là, il nous montre que si on prend appui sur nos efforts, on perd. On perd non seulement notre salut, mais on va perdre tellement de choses en plus. On va perdre nos relations avec nos proches, on va perdre notre vie, notre simple paix. Parce qu'on commence à se tourmenter, à s'inquiéter. Dans le chapitre 4 des Éphésiens, des Philippiens, on retrouve encore ce sujet des inquiétudes, des personnes qui perdent leur paix simplement dans leur tête. Rien n'a bougé à l'extérieur. Tout est là, tout est pareil, tout est identique. Et pourtant là, ça fuse. Et des personnes, alors qu'elles devraient être tranquilles, des personnes alors qu'elles devraient être dans une forme de paix, de joie, de tranquillité, elles se retrouvent avec toutes sortes de maux et d'angoisses parce qu'elles calculent, elles s'inquiètent. Mais quand on s'inquiète, quand on calcule, c'est quoi? Ben c'est notre orgueil qui reprend le dessus parce qu'on veut contrôler et malheureusement on ne contrôle pas. C'est un dilemme qu'on n'arrivera jamais à résoudre parce que le seul qui contrôle, c'est Dieu. Et la sécurité pour mon cœur, la sécurité pour ma vie, c'est de considérer la grâce de Dieu et de m'appuyer non pas sur mes efforts ou mes capacités ou mes réussites ou ce que j'ai, mon argent ou quoi que ce soit, mais de me reposer sur ce que Dieu m'a dit. Oui, si tu as cru en Jésus-Christ, si un jour dans ta vie tu as compris qu'il était le seul par lequel tu puisses être réconcilié avec moi, alors tu seras dans la paix. Et c'est tout. Et je serai ton père, et tu seras pour moi un fils. Et celui qui est fils de Dieu, il est heureux, parce que Dieu s'occupe de lui, et c'est lui qui contrôle tout. Il contrôle tout, et les moindres détails de nos vies, de la vie de ses enfants, Dieu les contrôle. Et il ne donne pas des pierres ou des serpents à ses enfants, il donne ce qui est bon, il donne de bonnes choses à ses enfants. Alors pourquoi douter, frères et sœurs? Pourquoi sans cesse essayer de calculer, de contrôler? Oui, je comprends pas. Oui, je contrôle pas. Mais Seigneur, c'est pas sur ça que je veux m'appuyer, parce que sinon je vais vraiment tomber. C'est sur toi. Et il y a un danger quand on abandonne la grâce. C'est de se retrouver dans cette situation où les inquiétudes vont revenir au galop, les tristesses, les déceptions vont revenir. On peut prendre l'exemple sur le Covid en ce moment. On va essayer de... Ce qui m'a fait le feu aux poudres à cette pensée, c'est une réflexion que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, qui me disait, mais voilà, on a tout fait. On a tout fait pour ne pas être malade. Et c'est nous qui sommes malades. On nettoyait les courses. On changeait de tenue quand on arrivait à la maison. On faisait tout, on faisait tout. Et nous qui étions irréprochables par rapport au Covid, mais voilà que ce que nous craignons, ça nous est arrivé. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas faire attention ? Non. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire attention. Mais la question que je pose, c'est dans quel état d'esprit je fais les choses ? Est-ce que je fais attention parce que je veux contrôler ce que je ne contrôle pas ? Ou est-ce que je fais attention parce que je fais ce que je peux faire, conscient que je peux manquer à un endroit ou à un autre ? Mais ça, Seigneur, ce que moi je manque, c'est toi qui gères. Ça, c'est autre chose. Et ce qui n'empêche pas de faire attention. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et il y a un problème d'état d'esprit. Il y a celui ou celle qui veut tout contrôler, même le non-contrôlable. Celui qui veut tout maîtriser. Et malheureusement, celui-ci, celle-là, il ne pourra qu'être malheureux. Et peut-être est-ce un clin d'œil de Dieu quand ce que je crains m'arrive. Comme si Dieu me disait, réfléchis un peu. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Écoute, la preuve en est que tu ne maîtrises pas. La preuve en est que tu ne contrôles pas. Arrête. Arrête. Le Seigneur voudrait, il voudrait tellement qu'on puisse changer d'attitude dans ce domaine. Pourquoi s'inquiéter de choses dont on n'a pas la maîtrise ? Pourquoi s'inquiéter de choses qu'on ne peut pas contrôler? Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Parce que justement, on ne les contrôle pas. Seigneur, je veux m'appuyer sur ta grâce. J'aimerais lire avec vous ce psaume. Psaume 131. Je crois que ce psaume, il est pour nous peut-être particulièrement en ce moment. Un vrai chrétien. Et moi, je trouve l'image tellement belle. Psaume 131, Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions, il y a juste des questions là, je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. La Bible est équilibrée, hein, parce qu'elle nous dit aussi qu'il faut chercher. Mais à un moment donné, il faut accepter de ne pas tout comprendre et de pas tout connaître. Loin de là, et j'aime dans cette version de la colombe, loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Comme un enfant sevré auprès de sa mère, mon âme est en moi comme un enfant sevré. Israël, et on pourrait mettre notre nom, attends-toi à l'Éternel dès maintenant et à toujours. Dès maintenant et à toujours, parce que celui qui s'appuie sur la grâce de Dieu dans tous les domaines de la vie, il vivra encore cette parole de psaume 30, verset 5, je vous le cite. Son courroux dure un instant, mais sa faveur est pour la vie. La grâce de Dieu, la colère de Dieu, elle n'est qu'un instant. Et pour nous qui peut-être avons compris ce que Dieu avait fait pour nous par Jésus-Christ, à l'échelle de l'éternité, nos 20 ou 40 ou 60, même 75 ans pour ceux qui se sont décidés pour le Seigneur une fois quand j'étais plus jeune, je devais avoir 12 ou 13 ans, j'ai vu une mamie de 93 ans prendre le baptême. C'est beau, hein ? Mais même 93 ans, c'est quoi l'échelle de l'éternité ? C'est un instant. Toute sa vie, elle aura été séparée de Dieu. Et pourtant, elle va gagner la faveur de Dieu pour l'éternité. Et pour nous qui avons déjà la réconciliation, est-ce qu'on réalise que la grâce de Dieu, elle n'est pas qu'au jour où on se convertit, hein ? Elle est tous les jours la même. La grâce de Dieu est tous les jours la même. Dieu nous tend la main tous les jours. Et si, malheureusement, une fois, j'ai lâché la main de Dieu, si une fois je suis tombé, j'ai chuté, souvent on s'enorgueillit encore parce qu'on se dit « Non, non, là j'ai trop péché. Je suis allé trop loin. J'ai dépassé la ligne rouge. Je suis inatteignable par le bras de Dieu. Il ne peut plus me sauver, il ne peut plus me faire grâce. Je suis allé trop loin. » Ça vient d'où ça? Ça vient de notre orgueil. Parce que se croire inaccessible du bras de Dieu, laissez-moi vous dire que vous faites Dieu. Parce que Dieu a un bras qui est infiniment grand. Donc il peut aller chercher celui qui est au plus bas. Ne nous disons pas qu'on a dépassé la ligne. Ça, c'est de l'orgueil. De l'orgueil mal placé, peut-être, mais c'est de l'orgueil. Le bras de Dieu n'est jamais trop court pour aller chercher celui qui a besoin. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses, de toutes ses peurs. Le Seigneur, c'est tout ce qu'il veut pour nous. Il veut nous faire grâce dans le quotidien. Il veut que nous puissions être auprès de lui. Il veut que nous puissions tout à nouveau, quand bien même j'ai chuté, quand bien même je suis tombé, quand bien même je me suis fait des inquiétudes pour rien, quand bien même j'ai essayé de tout contrôler. Seigneur, je veux te demander pardon. Si jamais j'ai quelque chose à faire, si je suis passé à côté de quelque chose, je veux le réparer. Mais Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à compter uniquement sur ta grâce. On chantait ce chant qui disait « Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. » Et c'est ça. Mais c'est une marche de tous les jours, la grâce de Dieu. Je termine avec ces citations de Paul aux Corinthiens, chapitre 4. Moi, je vais le lire sur la tablette. Ça ne veut pas dire pour autant que si je compte sur la grâce de Dieu, je serai épargné des maladies. J'ai donné l'exemple du Covid. Y en a qui peuvent le voir comme une grâce. Hein. Je suis tombé malade, je n'ai pas besoin d'être vacciné. C'est une grâce d'avoir été malade. Et voilà. Tout dépend de qui le dit, de ce qu'on vit, de quel... Il y en a qui... On peut réagir de différentes manières. Et pourtant, Dieu peut permettre. Est-ce que Dieu peut permettre des épreuves? On l'a vu avec Job. Et pourtant, Job était irréprochable. Job, il était, on pourrait dire, sans faille. Ah, s'il en avait une, on en a vu une. Mais devant Dieu, il n'avait rien à se reprocher. Parce qu'il a avancé jour après jour. Avec la connaissance qu'il avait, avec son intégrité de cœur, sa sincérité. Et à un moment, Dieu s'est révélé à lui. Et on peut être confiant sur le fait que Dieu se révélera à nous, quelle que soit la manière. Mais effectivement, je peux être malade. Il peut m'arriver des problèmes, de toutes sortes de problèmes. Ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être toutes sortes de choses. Mais le Seigneur regarde comment on les traverse. Pas pour nous surveiller, mais quand il voit qu'on ne s'appuie pas sur lui, malheureusement, il est triste. Il aimerait tellement qu'on puisse traverser ces moments parce que quand Dieu permet des situations comme ça, c'est qu'il veut nous faire grandir. Il veut nous apprendre quelque chose. Et quand Dieu donne cette épreuve à Job, j'ai dit donne, mais c'est vrai. Il l'a donné à Job comme un bienfait. C'est dur à dire, mais c'est Jacques qui nous le dit, de regarder comme un sujet de joie. Pas parce qu'on aime souffrir, mais parce qu'on sait que quand Dieu permet quelque chose, il y a autre chose qui va se passer. On va apprendre de ce qu'on vit. Et on va, pour celui qui est spirituel, il pourra avancer. Et il va pouvoir être au bénéfice de ce que Dieu a permis qu'il vive. Et l'apôtre Paul, c'est ainsi qu'il vit. 2 Corinthiens 4, verset 1, il dit ceci. « Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. » Verset 7, 2 Corinthiens 4, 7. « Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant, jamais écrasé. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non anéanti. Vous voyez que Paul, il n'a pas été épargné. Et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que celui qui considère la grâce, plus rien ne lui arrivera. Non. Mais il y a un état d'esprit à avoir. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit rendue manifeste par notre corps mortel. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Tout ça à cause de sa foi. Et nous, on pourrait se poser la question, à cause de notre foi, qu'est-ce qu'on va traverser? Et là, on pourrait retomber dans le piège de calculer, de se dire, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Comment? Est-ce qu'il va falloir qu'on manifeste notre foi? Est-ce qu'il va falloir qu'on fasse autrement? Est-ce qu'il va falloir qu'on se soumette aux autorités ou pas? Etc. On peut calculer, mais Dieu ne demande pas ça. Arrêtons de calculer. Je termine avec les versets 15 à 18. Je vous le lis, version parole vivante. Ainsi, tout ce que nous endurons contribue à votre bien. Car plus la grâce abondera, plus nombreux seront ceux qu'elle atteindra. Et plus puissant sera le cœur d'action de grâce qui s'élèvera vers Dieu pour exalter sa gloire. Voilà donc pourquoi rien ne saurait abattre notre courage et pourquoi nous ne faiblissons pas, bien au contraire. Si extérieurement notre corps s'épuise et se détériore, intérieurement, nous sommes renouvelés et revêtus de forces neuves de jour en jour. Les épreuves que nous avons à endurer dans cette vie sont somme toute légères et éphémères. Paul relativise sur ce qu'il peut vivre et traverser. Elles nous préparent pour l'éternité, une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. Aussi, n'attachons-nous pas nos regards, et là, en filigrane, on a l'histoire de Job qui revient. Aussi, n'attachons-nous pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps. J'irai dans le bien comme dans le mauvais d'ailleurs. Les réalités invisibles demeurent éternellement. Seigneur, je veux compter sur ta grâce pour aller plus loin. On prie ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci Seigneur parce qu'elle nous éclaire encore une fois et nous appelle à nous confier en toi, à nous réfugier en toi, comme cet enfant qui est dans les bras de sa maman. Seigneur, je te prie Seigneur pour celui ou pour celle, ce matin qui s'est laissé envahir par toutes sortes de peurs, d'inquiétudes par rapport à l'actualité, par rapport à des épreuves auxquelles elles sont soumises, par rapport à des soucis de santé, Seigneur, peu importe. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour mon frère, ma sœur qui est dans cette situation. Et nous te demandons ta grâce, justement. Seigneur, aide-nous les uns les autres à nous appuyer non pas sur nos calculs, mais à nous appuyer seulement sur ce que toi tu nous as dit. Aide-nous, Seigneur, à prendre appui sur toi, sur ta grâce, pour que nous puissions abandonner toutes ces inquiétudes, ces souffrances que nous nous occasionnons. Seigneur, tu veux nous libérer de tout ça, et tu veux nous voir dans la paix. Tu veux nous voir, Seigneur, heureux de t'appartenir chaque jour qui passe. Seigneur, qui que nous soyons, nous voulons nous reposer en toi chaque jour. Oui, Seigneur, merci pour ta parole, que nous puissions tous compter sur toi, jour après jour, dans le nom de Jésus. Amen.